La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Figurez-vous que l'autre jour à Saint-Flour, un auditeur sachant auditer, comme il y en a tant, nous a fait remarquer que nous parlions très souvent de gens connus et qu'à force d'ailleurs d'en parler, on finissait par les connaître, mais qu'il restait sans doute quelques endroits à creuser. Et c'est vrai que des endroits à creuser, il y en a d'innombrables. Alors nous avons décidé de vous offrir 7 heures de musique en parcourant nos plages.
Il ne s'agit pas du tout, comme vous croyez, de plages de Normandie ou de Bretagne, voyez.
Ou du plan d'eau de Garabit-Grandval.
Ou du plan d'eau, absolument. Non, ce sont des plages musicales. Et là, vous allez voir que ces inconnus, ces méconnus, ils sont drôlement bons.
Ils sont très bons. On se demande souvent comment se fait-il que des gens comme ça n'aient pas été plus connus. Écoutez, simplement, ils n'ont pas forcément été au bon endroit au bon moment.
Ou alors, ils n'ont pas rencontré le type qui pouvait les faire monter au moment X, effectivement.
Ou alors, ils n'ont tout simplement pas eu envie. Il y en a qui étaient très bien,
étaient. C'est ça, il y avait des fleurs modestes qui n'avaient pas du tout envie de devenir des roses devant tout le monde.
Là, nous allons partir totalement au hasard dans notre discothèque. Et comme il faut bien commencer par quelqu'un, un souvenir nous est venu d'un trompettiste qui s'appelle Taff Jordan.
Alors il a joué avec Duke Ellington, celui-là, quand même.
Oui, mais il était auparavant le soliste trompettiste vedette de l'orchestre de Chick Webb, du temps où Ella Fitzgerald était une toute jeune fille. Et ce Taff Jordan, que nous avons d'ailleurs rencontré à New York il y a bien longtemps, c'était un type au physique assez étonnant. Il était petit, sec, et il avait un regard terrible. Et en fait, la manière dont il joue de la trompette, cette manière très, très ferme, le type qui sait vraiment où il va et qui construit les choses comme il l'entend, va tout à fait bien avec ce regard-là.
Il avait une particularité. Il pouvait imiter merveilleusement le style d'autres musiciens.
Oui, et en particulier, comme c'était un grand admirateur de Louis Armstrong, comme pratiquement tous les musiciens de jazz que nous avons connus, il imitait très bien Louis Armstrong, y compris dans ce qu'il chantait. Peut-être on passera un morceau où il se livre à cet exercice une autre fois. Mais là, nous allons avoir affaire à Taff Jordan en tant que lui-même, le vrai Taff Jordan, avec son propre style, son propre son, ses propres idées, et une manière de jouer, vous allez voir, très construite, très bien vue, dans ce long solo tiré d'un spectacle en public de l'orchestre de Duke Ellington.
Et ce solo s'appelle Tea for Two.
Oui, c'est un très joli morceau tiré, je crois me souvenir, de l'opérette No Nanette, ce Tea for Two.
Thank you.
Tu as dit tout à l'heure qu'il avait son propre style, mais je trouve que si ce n'est pas la même sonorité, ça c'est vrai, il est quand même extraordinairement influencé par Armstrong.
Mais tous les jazzmen sont des enfants de Louis Armstrong. Et il y en a pour qui ça se sent plus que d'autres, notamment évidemment des trompettistes.
Mais c'est vrai que là, on le sent. Hein.
Là, on le sent très bien. D'ailleurs, ce n'est pas le dernier qu'on entendra proche de Louis Armstrong ce soir.
Ok.
Ça, c'est certain. Et maintenant, nous allons changer d'instrument, car ce T42 me fait penser, alors ça n'a absolument aucun rapport, à un autre méconnu, une sorte d'étoile filante qui s'appelait John Hardy.
Il était du Texas.
Oui, les musiciens du Texas ont un grand intérêt. J'ai remarqué, peut-être je me trompe, mais j'ai remarqué que les musiciens du Texas, et en particulier les saxophonistes ténors, sont des gens directs et vigoureux. Mais alors, directs et vigoureux, je veux dire directs et vigoureux.
Oui, oui, on n'hésite pas, hein, on y va.
Oui, on dirait presque rugueux.
Quand on parle du Texas, j'ai appris il y a déjà un certain temps, mais quand même, ça m'a étonné que le Texas était immense.
Mais je crois bien que c'est plus grand que la France.
Vous vous rendez compte un peu, quand on dit Texas, alors on voit des cow-boys, des grands troupeaux et compagnie, mais on ne se rend pas compte de l'immensité de ce pays.
Je ne sais pas si c'est un rapport avec le tempérament des musiciens du Texas, mais quand on pense à un que nous avons bien connu, qui était la sorte de prototype du saxophoniste ténor texan, qui était Buddy Tate, c'était rugueux, direct, et ça plaisantait pas avec le swing, hein, c'est sûr, et avec les inflexions non plus. Ce John Hardy, il était d'une famille où tout le monde faisait de la musique. On rencontre souvent ça d'ailleurs chez les musiciens noirs. Hein.
Oui, mais je dirais même c'est chez les blancs aussi, parce que quand on est dans une famille de musiciens et qu'on entend depuis tout petit de la musique, ben, très souvent on a envie d'en faire après.
Surtout que pour les gens qui nous intéressent, la musique n'est pas simplement un dérivatif anodin, c'est une véritable promotion sociale, surtout à cette époque.
C'est ça, et on en fait, en tous les cas pour les musiciens américains de cette époque, on en fait un métier.
Parmi les formations auxquelles John Hardy a appartenu, on retrouve souvent un très grand guitariste qui s'appelle Tiny Grimes. Et c'est donc pas très étonnant de retrouver un jour Hardy, qui a très peu enregistré sous son nom d'ailleurs, se retrouver au studio ayant demandé à Tiny Grimes de l'accompagner. Et naturellement, comme c'est un homme avisé et qu'il sait que dans le jazz tout part de la rythmique, il a le souci d'avoir un bon batteur.
Et c'est Sidney Catlett.
Sidney Catlett, c'est pas un bon batteur, c'est un des plus grands.
Oui, puis il est connu, lui. Hein.
Sans aucun doute.
Il
est très connu. Tu sais que Big Sid Catlett faisait plus d'1m90 et qu'il était capable de prendre quelqu'un par le callback d'une seule main et de le mettre à la hauteur de son œil.
En somme, une pauvre petite créature.
Oui, mais alors quel batteur.
N'est-ce pas ?
Ce morceau, donc, qui est de John Hardy, s'appelle naturellement
Hardy's Party. Donc, il nous invite à sa partie, et on va y aller. Thank you.
on entend un musicien jouer de cette manière-là, où on fait pratiquement parler l'instrument, eh bien, les musiciens qui l'écoutent disent, il raconte une histoire, he tell a story. C'est exactement ça. Là, John Hardy, c'est un bel exemple, et ce morceau-là, vraiment, tout à fait. D'ailleurs, ça nous renvoie à un autre saxo-ténor. Ça.
Ah, tu veux parler d'Ike Quebec. Ah oui, alors, attention, c'est un saxo-ténor, mais c'est un homme à tout faire. Parce qu'en réalité, il est aussi danseur, il est pianiste. Hein, un type comme ça dans un orchestre, c'est génial. Ben il peut tout faire.
Oui, c'est comme ça qu'il a commencé, d'ailleurs, comme danseur. Tu sais que le grand Joe Jones, le batteur, avait commencé comme danseur. Et le lion, Willie Smith, le lion aussi. Finalement, il y a quand même des rapports entre la musique jouée et la musique dansée. Hein. C'est finalement la danse et de la musique.
Bien sûr, bien sûr. Et il a été aussi conseiller musical.
Oui, et d'ailleurs, c'est ce qui me fait penser à John Hardy, puisqu'ils étaient voisins de catalogue, pratiquement. Ike Quebec était devenu le conseiller musical d'un label à l'époque, un jeune label qui s'appelait Blue Note. Ce Blue Note a fait des foultitudes de disques très intéressants. Et il faut dire qu'Ike Quebec a été un conseiller éclairé.
Oui, même on peut dire qu'il était tellement écouté que c'était un peu la vedette, mais uniquement de Blue Note.
Oui, en fait, c'est un type qui n'a pas eu la réputation par rapport au public, hein, la réputation qu'il aurait pu...
qu'il aurait mérité.
Par contre, dans le milieu musicien, il était à la fois estimé et redouté, parce qu'à l'époque, les musiciens se frottaient beaucoup les uns aux autres dans les jam sessions, ils étaient très concurrents. Et quand on voyait arriver un type de ce calibre dans une jam session, on se disait « Ouh, là !»
Il va falloir que je sorte mon meilleur.
Ouais, mais c'est pas toujours facile sur commande. Il y en avait qui discrètement pliaient et partaient par la sortie de secours, quelquefois.
On a choisi un blues parce que c'est là-dedans qu'il était excellent.
Excellent. Je te signale d'ailleurs que le morceau de John Hardy, Hardy's Party, que nous avons entendu avant, était également un blues. Mais là, ce morceau-là est assez extraordinaire et il s'appelle
Blue Harlem.
Vous devinez où tout ça se passe.
Thank you.
était un peu dans le même esprit que le précédent, là. Hein.
Ah, très blues, hein.
Oui, vraiment. Et là, le guitariste était le même, d'ailleurs. Le pianiste était un autre musicien méconnu, en passant. Hein, en voilà un autre, qui s'appelle Ram Ramirez. Ou Roger Ram, ça dépend des disques où on le rencontre. C'est un formidable pianiste. Encore un musicien apprécié des autres musiciens, mais peu connu.
Dans l'ensemble. Oui.
Et le batteur était le monsieur efficacité d'abord, qui s'appelait J.C. Hurd. Bonne pioche du saxo-ténor pour l'accompagner, là. Pour illustrer le potentiel d'ânerie auquel on peut arriver quand on parle de jazz, voici la définition de Haïko Beck que vous venez d'entendre dans le dictionnaire du jazz. Une inquiétude latente, une interrogation perçant filigrane d'un discours qui découle pourtant d'une école particulièrement sûre d'elle. Ainsi, ce musicien est attachant par ses hésitations même. Voilà. Si vous a donné l'impression d'être hésitant.
Oui, vous croyez qu'il hésite? Il connaît son sujet, il chante son blues sans aucun problème. Voilà. Où est-ce qu'il a vu ça, le journaliste?
Pour le jazz, il vaut mieux ouvrir l'oreille que de lire des livres qui disent vraiment n'importe quoi.
Parfois.
Oui, bien souvent. Hein.
Maintenant, on va parler encore d'un saxo-ténor.
Ah bah oui, parce que tant qu'on en est aux gens en direct et qui aiment jouer le blues et dont le jeu est toujours plein de blues, eh bien, il y en a un autre qui vient à l'esprit tout de suite qui s'appelle
Harold Ashby.
Harold Ashby, c'est une forte tête. Je peux même te dire, c'est une sorte de breton du jazz, tu vois, le gars têtu, obstiné, direct et sachant ce qu'il veut.
Il a joué avec Ellington.
Beaucoup. D'ailleurs, le contexte dans lequel nous allons l'entendre là est assez marqué Ellington, puisqu'il y a un excellent tromboniste également méconnu, encore un.
Booty Wood.
Ah, ce Booty Wood, c'est un sacré tromboniste. Hein. Et puis alors, il a du pep. Hein. Et puis, il y a naturellement Sam Woodyard à la batterie, le batteur de Duke Ellington, et son bassiste de l'époque s'appelait Aaron Bell. Alors tout ça, ça tourne. Hein.
Get Down.
Thank you. Et maintenant, du ténor, on va passer à l'alto. Il y a des gens qui sont méconnus en général, il y en a qui sont méconnus en tant que solistes, parce que celui qu'on va entendre, Marshall Royal, est assez connu en tant que musicien de pupitre.
Il était premier alto chez Bézi. Lui aussi venait d'une famille de musiciens, puisque par exemple, son petit frère Ernie était aussi trompettiste.
Ernie Royal est devenu un trompettiste très connu, qui a d'ailleurs également joué chez Count Basie. Très bon technicien, très bel aigu. Ernie Royal est un type qui est plus connu que son frère en tant que soliste.
Et alors, ce Marshall Royal a très peu enregistré sous son nom. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est bien fiers de vous proposer cet enregistrement si rare.
Oui, parce que finalement, vous observerez que sur les ondes de Radio Margeride, vous entendez des choses que jamais vous n'entendriez sur les radios nationales, culturelles.
N'est-ce pas ?
Eh oui, il faut quand même le savoir. Dans cette production très réduite, voici un album où le jeune Monty Alexander tient le piano, ce qui est tout à fait intéressant et inattendu.
Et à l'époque, il n'était pas bien connu, celui-là.
À Monty Alexander, non, pas du tout. Donc ce Marshall Royal était aussi, dans un sens, un découvreur de talent. Et là, il nous joue un morceau qui s'appelle « Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient ».
Oui, comme disait ma grand-mère. Thank you.
Oui, Marshall Royal. Marshall Royal, c'est un type qui m'a toujours beaucoup amusé parce qu'il ressemblait étonnamment à mon grand-oncle. On aurait dit mon grand-oncle en créole.
Décidément, on vous parle que de choses de famille, là. Hein. Ma grand-mère, mon grand-oncle, et allez donc.
Mais oui, c'est toi qui parles de ta grand-mère, ça me renvoie à mon grand-oncle, c'est assez logique. Au demeurant, un homme charmant et très distingué. Faut dire. Tout à l'heure, tu as fait remarquer que Taft Jordan, le trompettiste, était très proche du style de Louis Armstrong. Eh bien, voici un autre exemple qui me passe vers la tête et d'un type alors encore plus méconnu.
C'est Edward Anderson.
Hein, qui connaît Edward Anderson, je vous le demande.
Ben oui, c'est un joli nom, mais personne ne le connaît. Hein.
D'autant plus que ce soliste, qui était un merveilleux soliste, qui va vous exposer un thème de manière tout à fait armstrongienne, là justement. Ce Edward Anderson, eh bien, il n'a pas fait de la musique très longtemps.
Puisqu'il l'a abandonné à l'âge de 30 ans. Ou plus exactement, on perd entièrement sa trace musicale lorsqu'il avait 30 ans. Est-il tombé malade? A-t-il décidé de changer complètement de vie? A-t-il changé de métier?
Nul ne sait. Voilà. Et donc, Edward Anderson, qui maintenant serait, s'il avait vécu largement centenaire, eh bien, on ne sait même pas à quel endroit et à quelle date il est mort. Perdu de vue, Edward Anderson. Le voici dans un morceau du Blue Rhythm Band, puisqu'il a appartenu à cet orchestre avant qu'il passe sous la direction de Lucky Millinder et devienne beaucoup plus connu. Le voici qui expose et qui termine d'ailleurs également le morceau, un arrangement qui s'appelle...
Moaning.
Moaning, ça veut dire la plainte.
Ouh, c'est triste.
Enfin, c'est pas tellement, je trouve que c'est pas très très plainte ce morceau, c'est un très joli morceau. Thank you. Maintenant, on va prendre le contre-pied de tout ça, puisque le trompette qui va venir, ou même plutôt les deux trompettes qui vont venir, c'est suffisamment loin dans le temps pour être indépendant de l'influence de Louis Armstrong, puisque ça remonte avant que celle-ci ne se répande.
Il s'appelle Dewey Jackson, et il est de l'école de Saint-Louis dans le Missouri, et il ne l'a jamais quitté.
Sauf 4 mois passés au Cotton Club, et après ces 4 mois qui ont dû être assez agités, il est rentré en courant à la maison.
C'est amusant parce que c'est une sorte de fonctionnaire. Il est tout l'été sur les riverboats, c'est-à-dire, vous savez, ces bateaux à aube, qui sont des bateaux touristiques, hein, mais qui transportent des gens aussi du pays. Hein, mais...
ben, ils font un peu tout. Il y a des bateaux qui font les longues lignes, et puis dès qu'ils font des excursions, enfin, il y a un trafic fou là, sur le Mississippi.
Voilà, mais c'est quand même plutôt l'été.
Et en musique.
Et puis, l'hiver, il est au dancing. C'est une sorte de, comme je vous ai dit, de fonctionnaire, mais qui a un physique.
Ah oui, là, il a un très beau physique, puisque nous sommes dans un pays de rugby. Nous appellerons ça un physique de troisième ligne centre. Ou de boxeur, poids lourd.
Imaginez un petit peu cet homme-là dans sa cuisine, vous voyez, et il est en train, avec un petit tablier, une baraque énorme comme ça, et il est en train de se mitonner, avec amour, un tourne-dos Rossini.
Oui, on l'imagine assez bien dans cette situation. Alors là, nous sommes dans l'orchestre le plus connu de Saint-Louis, une vraie école, hein, une vraie école pour trompettistes, entre autres. Le patron s'appelle Charlie Criss, et c'est le premier trompette de l'orchestre, et il a un deuxième trompette qui est là, Dewey Jackson. C'est un morceau qui fait un peu attendre, je trouve, les solos de trompette qui se trouvent à la fin du morceau. Le premier, c'est Dewey Jackson en personne, trompette bouchée, et le deuxième, c'est Charlie Criss, très reconnaissable, il joue du wah-wah, et il joue d'une manière très vibrante. C'est une opposition de style intéressante, et en tout cas, les passages arrangés à deux trompettes sont impeccablement exécutés. Ça, c'est des gens qui avaient l'habitude, hein. Pas de problème.
Eh bien, on va les entendre dans Crazy Quilt. Thank you.
Nous allons maintenant quitter les instruments où l'on souffle pour nous consacrer à celui sur lequel on tape.
Oui, alors c'est pas brutal, hein, c'est très musical.
Très musical.
C'est un instrument à cordes frappées. Si vous vous souvenez de votre histoire de la musique, eh bien c'est le piano.
Le piano. Voici quelques pianistes méconnus. Et pour commencer, un jeune type qui s'est fait connaître dans les années 70, qui est passé par Paris d'ailleurs, puisqu'il a enregistré un album qui s'appelle Parisienne Solo. Il s'appelle...
Jackie Bayard. Lui aussi, bah, c'est une famille de musiciens. Hein. Et c'est un hyperactif. Il voyage, il adore ça, il court partout, il joue partout. Ça n'arrête jamais ce type-là. Hein.
Non, puis en plus, il est devenu enseignant à force. Il apprend la musique, le piano, l'improvisation dans divers endroits. Et en plus, il joue de tout. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te rappelles ce disque que Sidney Bechet avait enregistré. Par réenregistrement successif, il jouait du soprano, de la clarinette, du ténor, du piano, de la basse et de la batterie.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein.
Ça, c'est tout à fait vrai. Eh bien, ce Jackie Bayard, il aurait pu en faire autant parce qu'il joue de tout, trompette, trombone, clarinette et saxo, donc piano.
Alors c'est très commode parce qu'on est toujours engagé, quelque instrument qu'on joue, il y a une place.
C'est un pianiste, je dois dire, assez insolite, original et ne reculant devant aucun gag. Et voici un portrait musical d'un danseur à claquettes.
Et ça s'appelle « A Tribute to Jimmy Slide ».
Jimmy Slide était un danseur à claquettes que nous avons bien connu parce qu'il est venu assez fréquemment en France à une époque. Et c'est un incontournable de la danse à claquettes qu'on appelle tap dance. À telle enseigne que vous le retrouverez dans des films grand public comme Cotton Club ou comme Tap Dance ou d'autres dont je n'ai pas la mémoire sur le moment. Mais c'est un des plus grands. Voici son portrait par Jackie Bayard.
Thank you.
Tout ça, c'était des messieurs. Maintenant, place aux dames.
Enfin, il n'y en aura qu'une. Hein. Mais enfin, elle tient de la place. Hein. Elle tient de la place. Elle s'appelle Dorothy Donegan.
Beau nom irlandais, n'est-ce pas?
Oui, mais elle est californienne.
Eh ben voilà, mais attendez, il y a plusieurs générations comme ça.
Oui, elle n'a pas vraiment le teint irlandais, hein, je dois dire. Non, ça, pas du tout. Et cette pianiste, elle a suivi le cursus de bien des jeunes filles qui deviennent musiciennes dans le jazz.
Elle commence par l'église.
Voilà, elle est toute jeunette, elle commence par chanter à l'église, mais comme elle est douée pour le piano, on la colle à l'harmonium, au piano et à l'orgue. Et puis elle développe un talent intéressant au piano, et puis finalement elle en fait son métier. Et on la voit arriver en France. Là, c'était enregistré à l'occasion d'un festival de Nice, je me souviens.
C'est une dame qui a une poigne vigoureuse quand elle joue.
Ah oui, ça c'est quand même quelqu'un qui ne se pâme pas devant un clavier. Hein. Elle sait s'en servir, elle sait le malaxer, et elle sait en tirer beaucoup de nuances d'ailleurs également.
Et ça, c'est souvent la particularité des gens qui ont commencé à l'église. Parce qu'à l'église, vous avez 30, 40, 50 choristes. Parce qu'il y a les gens, vous savez, avec leur grande aube de chanteurs et de chanteuses. Mais il y a aussi tout le public qui chante en même temps. Et je vous garantis que pour vous faire entendre au piano ou à l'orgue, eh ben, il faut avoir de la vigueur.
Oui, et puis aussi le public, il est un public de connaisseurs, il est
enthousiaste.
Hein, il est enthousiaste, mais il ne laisse pas, il laisse pas mollir, hein, il n'y a pas de doute.
Absolument.
Voici Dorothy Donegan dans un très joli morceau qui s'appelle
Willow Weep For Me. Thank you.
voici maintenant un type tout à fait hors série.
Oui, c'est vrai. Ce John Handy a fait un parcours vraiment étonnant. Hein.
Oui, son surnom, c'est Captain. En fait, il est connu dans le jazz sous le nom de Captain John Handy. Alors pourquoi Captain ? J'en sais rien du tout.
Peut-être. Comme il était il a vécu dans le Mississippi, peut-être qu'il avait un bateau et que tout le monde pour rire, il avait peut-être une barcasse.
Va savoir.
Hein, et tout le monde l'a surnommé Captain à cause de ça, sait-on ?
Tout est possible avec Captain John Handy. Et dans tout ce qu'on a dit Jean-Pierre Daubresse à son sujet, qui est un fuit de science, il n'y a pas l'explication de son surnom. Mais ce que je sais, c'est qu'il est né dans une famille de musiciens encore, hein, et qu'il a dû attendre d'avoir 60 ans avant d'enregistrer son premier disque, qui est quand même un comble. Il était donc du Mississippi, et puis il a commencé la musique tout gamin avec des instruments de fortune comme ses frères et sœurs. Quoi.
Oui, mais c'était le sort commun de ces enfants dont les parents avaient très peu de moyens, et on se débrouillait avec les possibilités du bord.
Ça, c'est ça. Alors, il a quand même fini par se faire payer une clarinette par je ne sais qui, ou par la trouver, ou la voler, ou l'emprunter, ou je ne sais pas. On sait jamais. Hein. Et adolescent, il se retrouve à la Nouvelle-Orléans. Et là, ben, il commence à jouer, puis il n'arrêtera pas de jouer. Il y joue avec tout le monde, tout un tas de gens. Et puis, il remplace la clarinette par le saxo alto, parce que l'instrument l'a séduit. Et tu sais, c'est une époque où on joue très très peu de saxo. La vogue du saxo n'est pas encore là. Quelqu'un a fait remarquer très justement que le saxophone était arrivé un peu tard dans l'histoire de la musique, et que le jazz s'en était emparé un peu tard, et que c'est pour ça qu'il n'y a pas de grands saxophonistes dans les premiers temps du jazz. Mais c'est pas bête comme réflexion, c'est pas bête. Enfin, bon matin, quelqu'un repère Captain John Handy et dit « Il faut absolument que vous veniez à New York enregistrer un disque. » Ce sera là son premier disque. Alors là, il est peu dégâté. On lui donne un orchestre, alors soin de soin. Hein. Il y a Doc Cheatham à la trompette, Benny Morton au trombone. Il y a Claude Hopkins au piano, qui est un formidable organisateur et chef d'orchestre. Un très bon batteur, qui s'appelle Gus Johnson. Enfin, un orchestre qui roule. Hein. Il n'y a pas de problème, même en tant qu'orchestre de studio. Et là, Captain John Handy va démontrer qu'il sait tout faire. Et le voilà, lui qui vient de la Nouvelle-Orléans, en train de jouer un morceau qui était l'indicatif de Count Basie.
One O'Clock. Jump.
Étonnant. Et en tout cas, inamovible, inébranlable, Captain John Handy, il joue comme il le sent et personne ne le fera changer. Voilà, c'est notre dernier méconnu du jour.
Thank you. c'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.